Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être au milieu de vous. Je me sens toujours bien quand l'occasion m'est donnée d'être au milieu de vous. Moi, j'avais envie de danser là tout à l'heure comme les petits. Oui, vraiment. Et merci de m'avoir invité. Hein. Voilà. Je suis censé donner le message et parler un petit peu du Népal. Mais je n'aime pas renier sur le temps qui est consacré, qui doit être consacré à la parole de Dieu. Donc, pour ce qui est du Népal, ce n'est pas que je ne puisse pas en parler avec beaucoup de conviction, mais je vous ferai donner une lettre de nouvelles par Eliane. Vous aurez les nouvelles. Voilà, mais je tiens à vous présenter Grâce, Jérémy et Marine. Please, come here. Voilà, Grâce est ma fille adoptive népalaise. Hein. Elle est médecin, voilà, et nous espérons ouvrir ensemble le 2 février cet hôpital sur lequel nous avons travaillé avec Dil Thapa depuis maintenant quelques mois, qui s'appelle Nikosakti, ce qui veut dire puissance de guérison. Son mari, Jérémy, qui aime beaucoup la parole de Dieu, qui continue de l'étudier, et Marine, hein, ton nom de famille, hein, bon, difficile, hein, elle est de l'église de Rezé, voilà, elle sera pour quelques semaines à Strasbourg, et peut-être par la suite vous la reverrez. Please, say a few words.
Merci. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
I'm so thankful to be here.
Je suis tellement contente d'être là.
I'm thankful to the Lord. Thankful to the Lord.
Et je remercie Dieu.
And thank you for your prayer in the past days in our hospital.
Et merci pour vos prières que vous avez fait monter à Dieu pour notre hôpital.
This time we are here for a few days.
Nous sommes là juste pour quelques jours encore.
Our main purpose not to be here.
Notre but principal n'était pas d'être ici, mais
we are going to Nepal.
Nous allons donc au Népal
for the work, in the hospital.
Pour travailler dans cet hôpital.
Where he is. Ouais. So, we would like to request you to continue to pray.
Et vraiment, nous voudrions vous demander de continuer à prier pour nous.
Because it is a very difficult place where we are going to work.
C'est une place qui est réellement difficile.
Thank you.
Merci. Jérémy, please, you translate him. Hein? Moi, j'ai du mal à le comprendre avec son accent américain.
Is this better?
Yes.
Oui. One thing I want to say is that commend this church and the body of Christ.
Une chose que je veux dire, c'est que aujourd'hui pour le corps de Christ.
Was reading one Psalms 145 collectively.
J'ai beaucoup aimé lire le psaume 145 ensemble.
It's something I've never experienced before.
C'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté avant.
Now, as far as for far west Nepal.
Et du coup, dans l'ouest du Népal.
My hope and prayer is to do what God had called us to do at this hospital.
Mon espoir est de faire ce que Dieu nous a demandé de faire dans cet hôpital.
And not only that, I pray, and if you would pray along with us, that the word of God would go forth.
Et nous aimerions que vous priez avec nous, que la parole de Dieu soit annoncée.
And also keep in prayer for two churches, two Nepali churches that are in Nepal.
Et aussi de garder dans vos prières deux églises qui sont au Népal.
That they both reconcile their differences.
Qu'elles puissent se réconcilier malgré leurs différences.
And come under one authority and one headship that is Christ.
Et venir sous une autorité qui est Christ.
And also keep us, my family, here in prayer as well as we move forward in this endeavor.
Et aussi nous garder, nous, notre famille, dans ce parcours.
And thank you, and may God be with you.
Merci et que Dieu soit avec vous.
Voilà, nous commençons l'année 2020. Et je ne pense pas pouvoir dire qu'elle sera forcément facile. Jésus nous a demandé explicitement de discerner les temps dans lesquels nous vivons. Il a dit, comment se fait-il que vous ne sachiez pas discerner le temps dans lequel vous vivez ? Et je veux donc dire quelques mots à ce sujet, le temps que nous vivons, et peut-être juste quelques mots des temps qui sont à venir encore. Le temps présent. Eh bien, nous sommes envahis par des idéologies de mensonges, des fausses religions qui fleurissent et qui imprègnent notre société. Voilà, les faux prophètes sont légion parmi les philosophes, dans les médias, parmi les politiciens, bien sûr. Hein. Seulement, voilà, ils parlent de tout sauf de ce que Dieu voudrait dire à notre peuple, à notre pays. C'est-à-dire, ils parlent de tout sauf du péché, de la justice et du jugement. Leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel. Les prophètes prophétisent avec fausseté et mon peuple prend plaisir à cela. Je ne parle pas tellement des prophètes religieux, hein, ceux-là aussi, il y en a des faux prophètes. Hein. Je parle de tous les philosophes et politiciens qui essayent, il faut bien le dire, de nous imposer leur vue antichrétienne. Les prophètes prophétisent avec fausseté et mon peuple prend plaisir à cela, pas tous, mais beaucoup. Et la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, ils n'y trouvent aucun plaisir. Alors je voudrais être un tout petit peu plus spécifique et dire quelques mots, ne serait-ce que d'une de ces idéologies, l'idéologie dominante à l'heure actuelle, que ces tenants appellent eux-mêmes le progressisme, et que j'appelle la religion de l'homme. De l'homme devenu lui-même Dieu. Ils pensent que par le surhumanisme et l'intelligence artificielle, ils vont arriver à leur but d'avoir finalement un homme parfait, entre guillemets bien sûr, entièrement et seul maître de son destin, un homme Dieu. Ils s'attribuent et prétendent attribuer aux autres, à nous attribuer aussi, des droits qui n'appartiennent que à Dieu seul. En particulier le droit sur la vie et la mort à travers l'euthanasie, l'avortement, la PMA, la GPA, etc. Ils prétendent donner aux gens le choix de leur sexe et de leur orientation sexuelle. Mais voilà, ils sont vraiment à côté de la plaque. Et la Bible a parlé d'eux depuis fort longtemps. Par exemple, ils ont dit « Emparons-nous des domaines de Dieu ». C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent s'emparer des domaines de Dieu. C'est dans le psaume 83, verset 13. Mais voilà, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur. Sans intelligence, ça a été plongé dans les ténèbres. Romains 1. En fait, ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres et par eux, toutes les fondations du monde sont ébranlées. Ils sont en train de détruire systématiquement les fondements de la société et en particulier de la famille. Et nous sommes pris là-dedans. Nous sommes sous influence. Et nous devons être capables de résister à ces influences. Leur sagesse est terrestre, charnelle, diabolique. C'est l'apôtre Jacques qui le dit. Ces gens sont des sources sans eau, ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. En effet, leur idéologie libertaire promet une liberté, mais qui n'est que licence, qui n'est qu'une excuse pour vivre dans le péché. Ça, c'est l'ambiance dans laquelle nous vivons. Je pense que vous le ressentez tous. Et puis, il y a pas mal d'autres idéologies, mais je ne veux pas passer là-dessus. Alors, parlant du temps présent, une autre caractéristique, c'est l'anomia, c'est-à-dire le fait de vivre sans foi ni loi. Voilà, un déclin moral extrêmement grave. Comme l'apôtre Paul l'a dit aux Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité agit déjà, il fait son œuvre au milieu de nous. Ce n'est pas nouveau, puisque l'apôtre Paul en a parlé il y a 2000 ans, mais on a quand même l'impression que cette dégradation morale est en train de s'accélérer. Et bien sûr, le jugement de Dieu est suspendu au-dessus de nous tous. Et le prophète Jérémie dit « Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur fruit de ses pensées. » C'est le fruit de ses propres pensées. Nous vivons aussi des signes qui sont annonciateurs de la fin. Là, je serai très bref parce que chacun les connaît. Le fait que la parole de Dieu est prêchée dans le monde entier, la Bible traduite quasiment dans toutes les langues. Les gens de Wycliffe, je le vois au Népal, s'acharnent à traduire même des tout petits dialectes en voie d'extinction. Deuxième signe, c'est la persécution des chrétiens qui ne fait que augmenter encore. Et puis, il y a la mondialisation prophétisée par Daniel dans son chapitre 2, une mondialisation qui est en marche, mais sans qu'il y ait pour autant de l'unité, au contraire. Alors, tout cela prépare la venue de l'Antichrist. Il se lèvera lorsque l'iniquité sera à son comble et sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Sa puissance, il la recevra directement du diable. C'est écrit très clairement dans Apocalypse 13, 2, le dragon, c'est-à-dire le diable, est clairement identifié comme le diable, lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité, en sorte que la terre tout entière va suivre la bête et adorer la bête, mais aussi le dragon. Adorer le dragon, adorer le diable, ça s'appelle le satanisme. Et ça veut dire que nous allons au-devant d'un temps où le satanisme deviendra la religion acceptée par le plus grand nombre, en quelque sorte la religion d'État. Bon, il s'attaquera au prince des princes, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Et bien sûr, il fera la guerre aux saints et il lui sera donné de les vaincre. Avec lui, lorsqu'il aura établi ce que le prophète Daniel a appelé l'abomination qui cause la désolation, quand il aura établi ça dans le lieu saint, à ce moment-là commencera la grande tribulation pendant 3 ans et demi. Voilà, mais ce que je voudrais dire, c'est que dès maintenant, la guerre aux saints a commencé. Nous sommes sous l'attaque du diable, des démons et de ceux qui sont à leur service. Pendant la grande tribulation, les croyants seront vraiment dans la fournaise. Il est dit dans Daniel que la force du peuple sera entièrement brisée. Alors, il y a des gens qui vous disent que les chrétiens, que nous autres, nous n'aurons pas à passer par la grande tribulation. Mais ça, je vous dis, c'est une tromperie. Les gens qui ont échafaudé cette idée d'un enlèvement secret de l'Église et des croyants, mais c'est une tromperie. Nous, les croyants, nous aurons à passer par la grande tribulation. C'est dans la pédagogie divine pour que nous soyons épurés, purifiés, sanctifiés. Toujours est-il que sous ces pressions qui s'exercent déjà maintenant sur nous, mais qui vont s'exercer beaucoup plus, la grande tribulation n'est pas encore arrivée. Mais certains y sont déjà. Les gens en Syrie, dans d'autres pays du Moyen-Orient, en Afghanistan, au Pakistan, au Nigeria, au Burkina Faso, etc., il y en a qui sont dans la grande tribulation. Et sous ces pressions, certains vont succomber, d'autres vont résister et vaincre. Jésus lui-même a parlé du fait que certains vont succomber. Il a dit « plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Mais d'autres seront vainqueurs et trouveront en Dieu, en leur Seigneur, la force de résister. Il est dit que les plus sages parmi eux, non, il est dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils pourront dire, par exemple, comme les amis de Daniel, le Dieu que nous servons peut nous libérer. Il peut nous délivrer de toute manière. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas la bête et le faux prophète et nous n'adorerons pas l'image de la bête. Et de cela, il sera dit dans le ciel, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, le but de mon message, c'est pas tellement de parler de ces temps difficiles, tout le monde le ressent, mais c'est plutôt de voir comment nous mettre en situation d'être des vainqueurs, en situation, comment nous préparer. Jésus lui-même a donné plusieurs avertissements très importants. Il a dit par exemple, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, en sorte que ce jour vous surprenne à l'improviste. Moi, j'ai toujours pensé, nous avons été suffisamment avertis, il va être difficile de nous prendre à l'improviste. Mais en préparant ce message, je suis tombé encore une fois sur deux passages qui disent l'un, qui est dans Daniel, il paraîtra au milieu de la paix. Et l'autre, qui est de l'apôtre Paul, qui dit quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Donc, cette mise en garde, elle est pour nous aussi, même si nous sommes avertis. Il faut donc veiller et prier, la chose est absolument claire. Mais nous devons nous préparer aussi à affronter la persécution. Vous avez au milieu de vous des frères qui en savent plus long que moi là-dessus. Mais nous devons nous préparer à affronter la persécution et s'il le faut, la mort, et accepter à l'avance de souffrir pour la cause de Jésus-Christ. À l'heure qu'il est, je ne vois pas que parmi les chrétiens de l'Occident, de l'Europe et de l'Amérique, je ne vois pas que les gens se soient mis vraiment dans la tête qu'ils auront à souffrir. Peut-être. Et pourtant, la parole est pleine d'avertissements. Par exemple, Paul dit aux Philippiens, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il dit aux Romains, vous serez co-héritiers de Christ si toutefois vous souffrez avec lui. Et à Timothée, il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et puis l'apôtre Pierre l'a dit vraiment très clairement et fortement, selon 1 Pierre 4, 12, bien-aimés, ne trouvez donc pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous aurez aux souffrances de Christ. Je me demande combien nous sommes à nous réjouir des souffrances éventuelles que nous aurons à endurer. Afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire repose, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc nous devons nous mettre en tête que nous aurons peut-être bien à souffrir pour le Seigneur. Et le moment peut venir plus vite peut-être que nous ne pensons, où les paroles de Jésus vont devenir tout à fait réelles, pratiques. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Donc, nous devons savoir qu'il y aura un prix à payer. Un prix. Et que ce prix vaut mieux le calculer dès maintenant. Et ce prix a été fixé par Jésus-Christ lui-même. Dans plusieurs passages des évangiles, j'en lis un, dans Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Alors, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être dire « Cette parole est dure. Qui peut la supporter ?» Mais concernant le fait de porter sa croix, je vais juste vous dire deux courtes citations. L'une de Thomas à Kempis, dans L'imitation de Jésus-Christ, il a dit « Si tu portes ta croix, la croix te portera. Si tu portes ta croix, la croix te portera. » Parce qu'il y a de la puissance dans la croix. Il y a de la puissance dans le sacrifice de Jésus-Christ. Une citation de Jeanne Guyon, « Jésus te donne la croix et la croix te donne Jésus. » Ce que je vais dire maintenant, c'est que nous ne devons pas craindre. Nous ne devons en aucun cas craindre ces temps difficiles. Jésus a dit « Gardez-vous d'être troublés, car ces choses doivent arriver. » C'est lui encore, le Seigneur, qui a dit « Ne les craignez pas ». Il le dit trois fois dans Matthieu chapitre 10, dans les versets 26, 28 et 31. Il répète « Ne les craignez pas, tous les cheveux de vos têtes sont comptés. Ne vous inquiétez pas à l'avance. » Dans Apocalypse, il est dit « Quand vous verrez... dans Apocalypse, il est dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, peut-être. » Et c'est Jésus qui dit encore, quand vous verrez ces choses, relevez vos têtes, car votre délivrance approche. Bon, maintenant, je vais parler des deux moyens qui me parlaient, moyens, on peut dire, qui me paraissent les plus importants pour être prêt à tout moment et nous préparer. L'un, c'est de mener tout simplement une vie sainte devant Dieu. C'est ça qui nous donnera la force. La deuxième chose, c'est de nous consacrer entièrement à lui. Alors, je vais quand même essayer d'être un peu bref, mais voilà. Concernant une vie sainte, je vais citer juste trois textes, tous les trois pris dans Galates. Galates 5, 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ, qui appartiennent à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ils ont. C'est quelque chose qui est vrai présentement. Galates 6, 14, « Par notre Seigneur Jésus-Christ, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » Et Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Oui ? Quel est le mot qui revient dans ces trois versets ? Quel est le mot qui revient quatre fois dans ces trois versets ? C'est le mot crucifié. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Par notre Seigneur Jésus-Christ, le monde est crucifié pour moi. Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Bon, nous devons être crucifiés à notre nature charnelle pécheresse. C'est pas que tout doit être crucifié. Pas notre intelligence, pas notre volonté, pas notre personnalité, mais notre nature charnelle pécheresse doit être crucifiée avec Christ. Et seuls les chrétiens crucifiés à leur nature charnelle pourront vaincre. Voilà, parce que ne nous faisons pas d'illusions. La chair sera toujours prête à suivre l'Antichrist ou les petits antichrists qui sont déjà là dans le monde. Maintenant, à propos de cette sanctification, je voudrais dire quelque chose que vous pouvez retenir facilement. Cette sanctification, numéro 1, Dieu la veut. Numéro 2, Dieu l'ordonne. Numéro 3, Dieu la promet. Numéro 4, Dieu en fait une réalité dans la vie du croyant. Je donnerai un seul verset pour chacun de ces points. Dieu la veut. 1 Thessaloniciens 4, 3, vous le savez, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Deuxièmement, Dieu l'ordonne. Je prends un seul texte dans Deutéronome 10. Maintenant, que demande de toi l'Éternel, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes, que tu le serves, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, que tu observes ses commandements et ses lois. Dieu veut notre sainteté, notre sanctification. Dieu l'ordonne. Troisièmement, Dieu la promet. Un seul verset. C'est pratiquement mon verset préféré de la parole. Ézéchiel 36, 25. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre être le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu veut notre sainteté, Dieu l'ordonne, il la promet, il en fait une réalité dans la vie du croyant. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, hein, et qu'il soit conservé irréprochable. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est... Non, mais vous le connaissez. Vous connaissez ce texte. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui... le fera. Il le fera. Non, il y a toujours encore des chrétiens qui disent « Mais non, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas vivre une si sainte. C'est écrit que nous trébuchons tous de plusieurs manières, etc. » Non, nous pouvons, nous devons vivre une vie sainte. Dieu le fera par son habitation en nous, il nous rendra participants de la nature divine. Il le fera par l'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit. Il le fera par la puissance de la parole, par la prière, par notre union avec Jésus-Christ, notre identification à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Le deuxième point, je crois que nous devons vraiment nous consacrer et toujours à nouveau nous reconsacrer à Dieu pour lui appartenir pleinement, parce qu'alors nous sommes au bénéfice de toutes ses promesses. Nous sommes gardés, nous sommes protégés. Le verset de base, c'est évidemment Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc à offrir vos corps et tout ce qui va avec, hein, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et cette volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Vous voyez ? S'offrir d'abord à Dieu, c'est la consécration. Ensuite, être transformé, c'est la sanctification. Et si ces deux conditions sont réunies, alors la chose est certaine, Dieu est prêt à nous révéler sa volonté. Et nous pourrons y marcher. Si nous ne sommes pas consacrés, pourquoi est-ce qu'il nous ferait connaître sa volonté ? Si nous sommes pleins de nos propres plans, de nos propres ambitions, même si nous prions plus ou moins sincèrement, il ne va pas nous la révéler. Mais si nous sommes consacrés, échangés, transformés, il le fera. Être consacré, c'est donner à Dieu notre vie tout entière, à notre être entier, le corps, l'âme, l'esprit, notre volonté, notre amour, notre allégeance, notre cœur, car seule la possession de notre cœur peut le satisfaire. Et cette consécration, c'est une décision de notre volonté. Personne d'autre ne la prendra pour nous. C'est un engagement solennel par lequel nous nous donnons à Dieu pour lui appartenir entièrement. Il faut bien sûr vaincre la résistance de la chair. Hein. Voilà, c'est un culte rendu à Dieu que cette consécration. C'est un culte sacrificiel. Nous devons sacrifier la chair. Nous devons, je dirais, la consacrer elle aussi à Dieu pour la dévouer par interdit. C'est une vieille expression. Peut-être les plus jeunes ne connaissent pas cette expression. Dévouer par interdit, ça veut dire le donner à Dieu pour que ce soit détruit. En l'occurrence, crucifié. Bon, la consécration implique des renoncements, mais ce ne sont pas des pertes. Nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants quand nous nous consacrons à Dieu. Par exemple, je renonce à ma volonté propre, mais je gagne la volonté de Dieu qui est de beaucoup meilleure. Je renonce au péché, mais je gagne la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je renonce au monde, mais je gagne l'Église du Dieu vivant. Je renonce à mon orgueil, à ma réputation, à la considération des hommes, mais je gagne la bénédiction que Dieu accorde aux humbles et aux simples et aux petits. Je renonce aux biens matériels. Là, c'est une pierre de touche. Parce que tout ce que nous l'avons reçu et tout appartient à Dieu. Rappelons-nous, c'est très important, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et parmi les fausses religions du jour, il y a la religion de l'argent, avec son corollaire la cupidité, dont la Bible dit clairement que c'est une idolâtrie. Non, mais si je renonce à mes biens matériels, si je les utilise pour Dieu, je gagne un trésor dans le ciel. Et puis l'apôtre Pierre, lui, il a dit, voici, nous avons tout quitté. Pas seulement ceci ou cela, nous avons tout quitté pour te suivre. Hein. Et Jésus lui a dit, il n'y a personne qui ait quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle. Toutes les autres choses ne reçoivent au centuple beaucoup plus, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà. Je ne sais pas si vous trouvez mon message un peu trop sévère, un peu trop dur, peut-être. C'est possible. Mais enfin, c'est dans la parole. Et la consolation réside dans notre foi. Parce qu'avec le grand jour du Seigneur seront révélés ceux qui sont sortis vainqueurs de l'épreuve, éventuellement de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Ce que je voudrais dire, nous avons la possibilité de vaincre. Nous devons vaincre. Nous devons être des vainqueurs. Et à celui qui vaincra, le Seigneur dit, il mangera de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Je lui donnerai la manne cachée, un caillou blanc avec un nom nouveau. Il sera habillé de blanc. Et alors une chose qui, là, moi j'hallucine. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je ne me suis jamais vu vraiment assis à côté de Jésus sur son trône. C'est fou, non ? C'est écrit. Je ne l'ai pas inventé. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Bon, nous ne pourrons jamais vaincre par notre propre force, hein ? Rappelez-vous Pierre, grande gueule, qui avait dit « Je te suivrai partout, je suis prêt à mourir pour toi ». Et Jésus l'a dit doucement. Dans peu de jours, dans quelques heures, tu vas me trahir trois fois. Et effectivement, il s'est cassé la figure devant une humble servante. Parce qu'il a essayé dans l'énergie de la chair. Ce n'est pas possible. Parce que cette victoire, la sainteté, c'est une œuvre miraculeuse de Dieu dans notre vie, par le Saint-Esprit. Mais Dieu ne demande pas mieux que de la faire, cette œuvre. Je termine. Le Seigneur a dit à l'Église de Philadelphie, « Quoique tu aies peu de force, ce qui est vrai pour nous tous, quoique tu aies peu de force, tu as gardé ma parole, hein, tu n'as pas renié mon nom, puisque tu as gardé mon commandement d'endurer avec patience, je te garderai aussi à l'heure de la tribulation, non pas de l'heure de la tribulation, je te garderai à l'heure de la tribulation. » Qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il leur dit encore à ceux de Philadelphie, ce sont ceux qui ont vécu dans la sainteté et la consécration. Il leur a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, ben oui, je viens de le lire, je te garderai aussi. Mais il a dit aussi, voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce que je veux dire, cette porte, elle est ouverte pour nous tous. Une porte dans laquelle nous devons passer, s'il le faut, à travers des épreuves, pour rentrer dans le royaume céleste. Voilà. Et cette porte, personne ne pourra la fermer, ni diable, ni démon, ni homme, ni qui que ce soit. Alors, voilà, je termine là-dessus, je voudrais. Cette porte est ouverte pour nous. Ma prière, mon désir, c'est que nous puissions tous entrer. Amen.